Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 12e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la 3e de cette année universitaire. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, que vous soyez familier de cet espace de réflexion et de débat ou que vous y veniez pour la première fois. Alors, au risque de me répéter pour les fidèles, et il y en a de ces rencontres, j'en rappelle l'esprit pour ceux qui viennent pour la première fois, à commencer par nos invités de ce soir. Chaque premier mardi de chaque mois... Ah, vous êtes déjà venu. Formidable, on découvre les personnalités cachées.
Il y a longtemps, mais... Voilà.
Chaque premier mardi de chaque mois, les facultés jésuites de Paris vous proposent, en partenariat avec la revue Croire Aujourd'hui, une soirée d'échange autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale. L'objectif est de pouvoir essayer de nous donner les uns aux autres, sans prétention, un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse de certaines situations, mais aussi de pouvoir repérer peut-être un certain nombre de critères ou de pistes qui nous permettent de mieux nous situer dans différentes situations de notre vie, des pistes aussi pour continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Ça ne se veut donc pas une conférence académique exhaustive sur un sujet, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion et notre agir. Le point de départ est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, modestement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux d'une telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Nous avons choisi de nous arrêter ce soir sur les enjeux climatiques. Du 7 au 18 décembre se tiendra la 15e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague. Les éléments d'information ne manquent pas, il suffit d'ouvrir les journaux, Internet, la radio pour avoir accès à beaucoup de données et d'analyses. Force est de constater que ce sujet, cette préoccupation s'est peu à peu imposée dans l'opinion publique et bénéficie aujourd'hui d'un intérêt grandissant. Reste qu'il est quand même souvent difficile de faire le tri dans toutes ces informations, de mesurer véritablement l'importance, l'enjeu de cette conférence et au-delà de celle-ci, de l'ampleur des évolutions climatiques et leurs conséquences à moyen et à long terme. Vous le savez, l'ONU espère conduire 192 pays à signer un nouveau traité international destiné à succéder au protocole de Kyoto qui prend fin en 2012, en 1997, ce texte engageait les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en 2012 par rapport à 1990, tandis que les pays en voie de développement n'étaient soumis à aucune contrainte. Si la situation paraissait mal engagée il y a encore quelques semaines, les récentes annonces des États-Unis, de la Chine et d'un certain nombre d'autres pays émergents à quelques jours de l'ouverture du sommet, ont redonné un élan aux perspectives de négociation. L'objectif du sommet, il est en effet d'élargir l'accord, d'abord aux États-Unis, qui avaient signé le protocole de Kyoto, mais qui ne l'avaient jamais ratifié, et puis à des pays en transition économique, comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Alors, nous le savons, et cela nous sera sans doute redit ce soir, cela est loin d'être gagné, il y a aussi beaucoup de points qui restent à régler, les chiffres de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment des pays industrialisés, le financement aussi du futur accord, qui est indispensable pour aller vers un développement propre et pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Difficile dès lors de savoir ce qu'il faut attendre de Copenhague et de telles conférences internationales pour faire avancer, au-delà des effets d'annonce, une véritable résolution des problèmes. Qu'est-ce qui fait difficulté? Que nous est-il permis pourtant d'espérer? Quelle partition joue la France dans ce dossier? Et nous, comme citoyens, eh bien, quelle attitude tenir? Autant de questions qui nous ont conduits à donner comme titre à notre soirée « Face au changement climatique, quelle décision politique ?» Pour nous aider à y voir plus clair, nous espérions ce soir la présence de Laurence Toubiana, qui est fondatrice de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris, qui est également directrice de la chaire du développement durable à Sciences Po. Alors, il y a toujours évidemment un risque à inviter des gens importants, c'est qu'au dernier moment, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas venir. C'est ce qui s'est passé avec Laurence Soubiana, qui est entre Copenhague et Paris, fort mobilisée, on le comprend, par les travaux préparatoires, et qui nous a fait part, il y a très peu de temps, de son impossibilité d'honorer son engagement. Alors, cette nouvelle très récente nous a bien occupés ces dernières heures, je ne vous cacherai pas, et je voudrais remercier bien sûr Jean-Charles Orcade, notre autre intervenant qui a mobilisé son réseau pour ne pas se retrouver comme seul intervenant ce soir, mais je voudrais surtout remercier Sophie Galaret, qui ne savait pas ce matin qu'elle passerait une excellente soirée en Père Jésuite et avec nous tous. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre disponibilité. Merci d'être là pour nous éclairer sur un sujet que vous connaissez bien. Après une formation à l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon et à l'École du génie rural des eaux et forêts, spécialisée en économie de l'énergie, vous avez travaillé 2 ans à la direction de la recherche chez GDF Suez, dans un pôle dédié aux études économiques liées à l'énergie, sur la régulation des marchés gaziers, le marché carbone européen et les scénarios de prospective énergétique, avant d'être en charge du projet de recherche sur les instruments économiques de lutte contre le changement climatique. Et vous avez rejoint, je crois, en 2008, l'équipe climat de l'IDRI, et vous suivez en particulier les questions énergétiques, les options et les outils de réduction des émissions dans le cadre des négociations internationales. Nous avons donc beaucoup de chance de vous avoir ce soir avec nous, et encore un grand merci. Laurence Toubiana n'est pas là, mais Jean-Charles Orcade, heureusement pour nous, a résisté à l'appel d'air de Copenhague. Et pourtant, vous êtes un familier de ces instances et négociations internationales. Docteur en sciences sociales, en sciences économiques, diplômé d'HSC, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous dirigez, depuis 1987, le CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Membre du Comité national de la recherche de 89 à 98, vous avez participé entre autres à la délégation française aux négociations dans la Convention climat de 95 à 2002. Et à l'échelle internationale, vous avez été également co-coordinateur du groupe de rédaction de plusieurs chapitres au sein du deuxième puis du troisième rapport d'évaluation du GIEC, le fameux GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et auteur, je crois, principal du 4e rapport. Plus récemment, vous avez beaucoup travaillé et défendu l'idée d'une taxe à carbone. Peut-être que cela arrivera dans la discussion ce soir. Nous avons donc beaucoup de chance de vous avoir aussi avec nous ce soir pour rendre accessibles des problématiques qui peuvent quand même être un peu complexes. Un dernier mot qui, à mes yeux, est important. Vous avez aussi une grande qualité que j'ai beaucoup appréciée ces 2 derniers jours, c'est que vous êtes joignable au téléphone. Et pour le climat de cette soirée, ce fut pour moi très appréciable. J'en reste là. Je vous donne la parole. On va commencer par vous, Jean-Charles, en commençant peut-être par vous dire, voilà, nous arrivons près de Copenhague, cet événement important, mais il y a des choses qui se sont passées avant. D'où vient Copenhague et comment se sont petit à petit mises en place les questions sur lesquelles ce sommet va travailler?
Merci, Monsieur le Président. Et donc, oui, j'ai un peu décidé de en s'harmoniser avec Sophie. Après tout, je réitère, enfin, je tire les conclusions de la bonne formation que j'ai reçue chez les Pères Jésuites, c'est-à-dire que un peu d'histoire et de vision longue n'est pas inutile pour comprendre ce qui se passe sur les temps présents. Donc, deuxième chose, je connais un peu le milieu quand même, que vous faites pas partie des gens qui spontanément vont jouer les messieurs au mets, quoi. Tout ça, c'est des bêtises. On nous en fume, n'est-ce pas? Mais je sais, parce que j'écoute la radio, qu'on vit dans un monde où d'un côté on a les grands discours catastrophiques, de l'autre côté on a les grandes fêtes, entre guillemets, style Copenhague, avec les grands de ce monde qui se rencontrent, et puis il y a la petite musique lancinante qui dit, mais tout ça, est-ce que tout ça, c'est pas des conneries? On entend Monsieur Allègre, on entend Monsieur Sorman, je veux dire, c'était celui de ce matin, et ça se fait de façon plus ou moins violente, mais c'est important. Or, c'est important parce que vous avez parlé de la taxe carbone, quand on se dit que 2/3 des Français sont contre la taxe carbone, on se dit qu'on peut très bien peut-être dire qu'à Copenhague, il y aura une annonce que le monde entier divisera ses émissions par 4 à échéance 2050, on a le droit d'avoir des doutes. Donc ça veut dire que je vais commencer 2 minutes ou 3 minutes sur le problème tel qu'il s'est posé historiquement. Il est vrai qu'il y a une alerte, que cette alerte est donnée par les scientifiques du GIEC, et que, contrairement à ce qu'on dit, le GIEC en tant que tel, alerte, décrit, ne donne aucun objectif. Nous n'avons pas le droit d'être prescriptifs. C'est-à-dire que le GIEC dit simplement, voilà ce qui est en train de se passer. Dans « voilà ce qui est en train de se passer », il y a des choses sûres, c'est que si ça continue, on n'arrivera pas à stabiliser la hausse moyenne des températures au-delà de 2,5 degrés. C'est presque trop tard. Par contre, on est moins solide pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Parce que simplement, on devine bien que les dommages climatiques, ça serait important. On peut le penser. Mais on n'a pas de preuves vraiment aussi solides. Parce que c'est compliqué, on ne peut pas prédire le temps en 2050, comment les gens vont réagir, comment les écosystèmes vont réagir. Donc simplement, dites-vous bien que le GIEC dit, on est en train de passer des hausses de température qui nous amènent à un rythme tel qu'on n'a jamais connu ça dans le passé, surtout en rythme d'augmentation. Si vous nous demandez, est-ce que ce sera la catastrophe, on peut vous dire qu'il faut peut-être faire attention, mais qu'on ne sait pas. La meilleure métaphore que j'ai depuis longtemps là-dessus, c'est de dire, et ça répond à Claude Allègre et à Sorman et aux autres, écoutez, on est dans une voiture, je suis pyrénéen, donc c'est une image de montagne, c'est la fin de l'hiver, on descend un col, on ne sait pas s'il y aura du verglas au prochain virage. Le problème, c'est par exemple par rapport aux gens qui parlent de décroissance, hein, quand vous êtes là, vous avez deux solutions stupides. L'une, c'est de vous arrêter et d'aller voir s'il y a du verglas, et l'autre, c'est de faire comme si rien n'était. Dans un premier temps, vous perdez beaucoup de temps, dans l'autre cas, si jamais vous freinez trop tard, vous risquez de partir dans le ravin. Ce dont on discute, c'est comment je tapote un peu le frein pour ralentir la courbe et petit à petit arriver à prendre le virage dans le bon sens. Ce qui fait que même les sceptiques devraient écouter ça. Nous avons une inertie dans nos systèmes de production, on n'a pas besoin de croire dans les annonces catastrophiques pour dire qu'il faut quand même faire attention. D'accord? Donc ça, celui qui vous parle en tant que membre du GIEC, et là je ne vous dit pas c'est la catastrophe, vous dit écoutez, regardez les chiffres, faites-vous votre opinion. Et en tant qu'économiste, je peux dire la meilleure attitude rationnelle, raisonnable, c'est une attitude de précaution qui est de dire attendez, on peut peut-être essayer de s'arranger pour que si c'est vraiment extrêmement dangereux en 2040, on soit pas complètement bloqué. D'accord? Alors sur cette base-là, c'est en 88-89 que l'affaire climatique a explosé avec la conjonction de scientifiques et de notre côté non pas de groupes écologistes culpabilisateurs et manipulateurs, c'est des choses qu'on entend, mais d'un G8, un G7 à l'époque, où siégeaient Bush père et Madame Thatcher. C'est pas des écologistes farfelus. Pourquoi ils ont fait ça? Bien sûr le symptôme, bien sûr l'anticipation des risques pour la géopolitique mondiale, mais aussi l'affaire énergétique. Parce qu'à l'époque le prix du pétrole est très bas et on anticipe que les réserves de pétrole vont être de plus en plus concentrées sur cette zone légèrement dangereuse qui s'appelle le Moyen-Orient. Et que quelque part, du point de vue de la sécurité énergétique, nous savons, les spécialistes de l'énergie, que ça serait très très bien que les prix de l'énergie dans le monde soient plus élevés pour à l'échelle mondiale, hein, pour réussir la transition post-pétrolière. L'affaire climatique est de fait aussi un coup tactique, en partie, sur cette affaire-là. Donc ça, c'est le lancement. L'Europe embraye, c'est du temps de Jacques Delors comme commissionnaire, comme président, comme secrétaire général. comme président. Et embraye bien sûr parce que il est conscient des dangers d'un prix du pétrole trop bas. Il lie totalement ça à l'affaire de l'emploi et de la réforme fiscale, déjà. Les États-Unis sont piégés parce qu'en interne c'est plus compliqué et surtout il y a l'affaire de l'Irak. La première guerre avec le Koweït. Donc ça veut dire que la question de la sécurité énergétique en interne, elle est réglée, entre guillemets, c'est-à-dire que l'armée américaine est présente sur place. Donc, l'argument principal qui motivait Bush est mis en parenthèse. On vient à Stockholm, ou à Stockholm, bien entendu, là il y a un petit débat, c'est que Stockholm c'est quoi? C'est qu'on va remettre l'ensemble de la planète autour de la table, et il y a un mot qui en France n'est pas très populaire, mais qui existe, c'est le mot de développement soutenable, qui veut dire, non pas une invention d'écolo, c'est la façon d'exprimer, qu'on ne saura pas le climat comme aucun problème global d'environnement sans la participation des pays en développement. Et que donc, c'est bien le développement qui compte, et non pas la décroissance ou la non-croissance, ou tout ce que vous voudrez, c'est bien le développement, dans des conditions dites soutenables, vu les contraintes de l'atmosphère. Et ça, c'est un pari politique fondamental. Et c'est très actuel, parce que c'est bien sûr ce dont Sophie parlera, et ce dont je reparlerai ensuite, mais on est là, déjà là, c'est pas nouveau, ça. Ça existe depuis le départ. Ce compromis se fait d'une façon qu'on peut ex poste trouver dommageable, mais je la commente pas. Le simple fait qu'on dit, nous, pays du Nord, allons montrer l'exemple, et les pays du Sud ne font rien pendant un moment. Que peuvent faire les pays du Nord? Deux hypothèses, les économistes expliquent à tout le monde, dont, d'accord, qu'il y a deux choses, une chose intelligente à faire, c'est qu'il y ait un prix du carbone, et quelle est la meilleure façon d'avoir un prix du carbone, sinon de prendre une taxe. Cette taxe, je ne fais pas encore sur la taxe maintenant, cette taxe, c'est pas un coût supplémentaire, c'est simplement une substitution de base fiscale. Vous augmentez le prix du carbone et par exemple vous baissez les charges sociales. Chose qu'on a complètement oubliée en France depuis 4 mois, 5 mois, hein, d'accord. Mais l'idée, déjà, c'est ça. Une taxe, vous la gérez et chacun se débrouille pour la gérer en interne de la meilleure façon qui soit. Cette affaire échoue parce que en Europe, nous avons une taxe dite mixte carbone-énergie. Parce que les Allemands ne veulent pas trop relancer, les Allemands et d'autres pays ne veulent pas trop relancer le nucléaire. C'est pour ça que l'histoire est importante, parce que l'affaire nucléaire va revenir comme élément important de débat à terme, dont personne ne parle, mais qui peut bloquer beaucoup de choses. Donc les Français aiment le nucléaire, les Allemands n'aiment pas le nucléaire, le compromis c'est de faire une taxe 50-50. Le problème est que la France suit ça de façon très distraite, et quelqu'un qui, par ailleurs, je n'ai pas d'opinion négative par rapport à lui, Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances, accorde 5 minutes d'attention à ce dossier, parce qu'en France, on ne s'en occupe pas, en fait, à cette époque, et dit, oui, c'est bizarre ce truc, taxer le nucléaire, c'est comme si, pour combattre l'alcoolisme, on taxait le Coca-Cola. Exit le soutien de la France à la taxe européenne. Donc, il a failli y avoir une taxe européenne. Notre pays porte la responsabilité de l'avoir fait échouer. On est en 92, les Américains sont très contents puisque les Européens se sont pris les pieds dans le tapis, et on va arriver à Berlin. À Berlin, entre-temps, Clinton est au pouvoir, croit que les Européens vont venir avec une taxe. Il fait une BTU tax, ça s'appelle une British Thermal Unit, ça s'appelle comme ça. Bien sûr, comme en France, ça se passe très mal, mais il la retire pas, il croit que les Européens vont venir lui imposer une taxe. On arrive à Berlin, et là, les Allemands, Kohl, qui avait fait un deal, un compromis avec son industrie, pour ne pas qu'il y ait de taxe, vient et bénéficie du fait qu'il y ait une réunification entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, pour dire, moi, grand pays, je peux faire moins 25% de baisse des émissions. Sous hypnose, la communauté internationale va donc changer de mode de négociation. Pas sur les taxes, mais sur les objectifs. Puisque un grand pays moderne peut faire moins 25%, que les Anglais derrière disent moins 20%, parce qu'ils se disent, après tout, moi je passe du charbon au gaz et c'est très bien, vous n'allez pas expliquer quand même que c'est une logique un petit peu difficile à extrapoler quand il faudra mettre la Chine et l'Inde dans le jeu. Parce que simplement, demander à la Chine et l'Inde d'avoir des cibles quantitatives, c'est un exercice légèrement délicat. À Berlin, donc, on se convertit à une approche par quantité, que l'on a sorti d'une idée de marché de permis d'émission négociable. Si vous voulez, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Mais rapidement, ça veut dire que, comme vous ne savez pas combien ça va vous coûter vos engagements, il faut un peu de flexibilité. Et donc, si vous vous êtes mis sur le dos une signature où ça vous coûte trop cher, vous pouvez importer des permis par rapport à des pays qui sont mieux placés que vous. On associe à ça une idée généreuse, qui est de dire comme ça, lorsque les pays en développement vont rentrer dans le jeu, ils seront très attirés, puisqu'eux, ils ont des potentiel de baisse d'émissions bien moins cher que chez nous, quelque chose à vérifier, et donc ils vont s'enrichir, puisqu'ils vont nous vendre des permis d'émission. Donc la solution est très simple, on a un marché de permis, on a nous pris à Kyoto le leadership, ils vont y venir un jour, et là on leur donnera des quotas, qui sont suffisamment généreux, pour qu'ils y gagnent quelque chose. Ils sont tellement attirés par ce gain, qu'ils vont venir. C'est clair ? Ça va ? Hein ? Vous avez donc des permis, on leur donne, on est généreux, ils vont gagner, parce qu'ils vont nous exporter des droits d'émission, et ça marchera bien. Ceci bute sur deux choses qu'on sait déjà, qui sont encore actuelles, et dont Sophie, en fait, a maintenant à gérer avec l'IDRI un certain nombre d'impact et de conséquences. Le Sénat américain, à l'unanimité, y compris les démocrates, juste avant Kyoto, vote une motion qui peut paraître scandaleuse, qui est dire nous ne ratifierons jamais un accord qui ne comporte pas une participation significative des pays en développement. Le pays le plus pollueur de la planète, qui dit moi je fais rien si les autres ne bougent pas. Il y a deux façons de répondre à ça, par le politiquement correct et dire, bon, les États-Unis sont vraiment des salauds. L'autre chose est de dire, attendez là, c'est quoi des permis d'émission négociables? La différence par rapport à une taxe. Une taxe, vous voulez une taxe, elle est chez vous, et vous la distribuez aux jeunes, aux vieux, à ce que vous voulez, ça fait ce que vous voulez. Les permis, c'est quoi? C'est que les États-Unis, ou nous engageons à importer des permis de quelque part. Donc on se donne l'obligation, on se crée une obligation d'importer. En 97, c'était très simple, c'était à partir des Russes. Parce que les Russes étaient dans le protocole, on leur avait donné généreusement des permis de stabilisation alors que leur économie était en train de s'effondrer, donc ça veut dire qu'ils avaient de quoi nous vendre des permis. Dans l'époque actuelle, imaginez les États-Unis aujourd'hui s'engager à faire des transferts de 10 à 15 milliards de dollars avec la Chine. Ce truc-là va y revenir sûrement, mais c'est le fond du problème qu'on connaît déjà depuis le départ. Hein. C'est-à-dire que donc nous avons bien cette affaire, dans quelle mesure les États-Unis, et en pratique nous aussi, mais nous on ne le dit pas trop, est-ce qu'on veut signer quelque chose, on va s'engager à donner beaucoup de permis, beaucoup d'argent à des pays émergents, c'est plus dur maintenant qu'il y a 15 ans, l'Inde et la Chine, qui sont quand même des pays où il y a quelques riches qui rachètent certaines de nos entreprises. Donc d'un côté vous avez les USA qui en fait disent non à ça. De l'autre côté vous avez les Indiens au nom du G77 qui disent dernier jour de Kyoto, il n'y aura pas de cap and trade, il n'y aura pas ce système si on ne résout pas la question du premier entitlement, de la première dotation de droits, qui sont d'équité. On leur donne combien comme droits d'émission? Donc vous avez face à face les deux blocs déjà à Kyoto. Kyoto COP 6, c'est des danses de Saint-Guy où ça termine par un échec et où l'Europe et les États-Unis, avec la meilleure administration qu'on ait jamais eue sur le sujet, échouent à se mettre d'accord parce que, là je vais aller très vite, on a joué sur un clavier de méfiance par rapport à la marchandisation de l'environnement, j'ai écrit un article pour étude à ce moment-là, où on n'a pas mobilisé une grosse partie de l'opinion écologiste en France contre le système de cap and trade. En pratique, parce que certains pays ne voulaient pas que ça marche. C'est aussi simple que ça. Donc, COP 6, eh ben, on échoue. Et puis vient Bush. Alors, c'est là que j'arrive à ma conclusion. Bush, c'est une parenthèse. Hein. Le jeu est gelé depuis là. Il se passe rien. Obama est élu depuis janvier dernier, en pratique, il est en position depuis janvier dernier. Donc on va réouvrir la boîte maintenant. Et donc Copenhague, faut pas attendre de trop, parce que, attendez, en gros, au Obama ne va pas refaire la même erreur politique que celle qui a été faite par erreur ex poste, hein, par Clinton, c'est-à-dire se dire je vais signer quand même à Kyoto quelque chose et je convaincrai mon Sénat. Ça, ils ont fait la bêtise une fois, ils vont pas le faire deux fois. Ils diront d'abord je veux le Sénat et ensuite je vais négocier. Donc ça, c'est le fond de Copenhague. Et Copenhague, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va forcer les USA à faire quoi que ce soit. Ça, c'est absolument clair. De même qu'on ne va pas non plus forcer les Chinois à faire quoi que ce soit. Par contre, ce qui doit se dessiner à Copenhague, c'est une dynamique où les problèmes de fond qui existent depuis 72 et depuis Kyoto existent. Comment on résout ce fichu problème d'équité et comment, en pratique, on arrive à dénouer le nœud gordien développement environnement, c'est-à-dire que on ne va pas négocier avec les Chinois et avec les Indiens en leur imposant des contraintes sur leur développement. Et que donc, ça, il faut bien le prendre en compte. Et on est maintenant dans une dynamique plus compliquée qu'avant, parce qu'avant, je dirais, il y avait nous riches et eux pauvres. Maintenant, c'est plus compliqué. Certains d'entre eux deviennent riches. Nos pays sont plus fragilisés. On est en crise économique. Et donc, le sortir du cercle est quelque chose qui sera plus difficile. Et en même temps, peut-être une provocation à le faire de façon un peu plus active. Alors, je m'arrête là. Notre président m'avait demandé de terminer quand même quelques remarques sur ce que j'anticipe de ce qui peut se passer, mais je me dis qu'on va le voir progressivement quand on va débattre, après ce qu'aura dit Sophie. Si vous voulez, l'enjeu de Copenhague, c'est de Copenhague à juin prochain, hein, c'est de savoir, brutalement, moi je le dis comme ça, parce que comme j'ai vécu ça, si on va sortir des pièges de l'hypnose de Berlin, c'est-à-dire la question urgente aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table sur les pays en développement qui soient vraiment crédibles, y compris en fonction de leur intérêt. Ils sont en train aujourd'hui, dans les 10-15 ans qui viennent, les pays émergents, de bâtir l'essentiel de leurs infrastructures. Les ponts, les routes, le bâtiment. Dans 20-30 ans, ce sera trop tard. Ces infrastructures existeront. Ils font en 15-20 ans ce que nous avons fait nous-mêmes. Et l'enjeu, c'est de mobiliser très fortement, rapidement, des investissements. On ne manque pas de capital pour le faire, il y a trop de capital dans le monde. Par contre, il faut qu'ils s'orientent sur des infrastructures lourdes. C'est un problème de gestion des risques, c'est un problème de réforme des systèmes financiers internationaux. Et c'est là, dans ma conclusion, je reviendrai ensuite un petit peu derrière, c'est que, certes, les marchés, tout ça, c'est très bien, mais si on ne met pas sur la table quelque chose qui réoriente des centaines de millions de dollars, qui irait à s'investir dans les 10-15 prochaines années sur ces secteurs-là, c'est sûr que la bataille sera perdue. Si par contre on arrive à discuter de façon sérieuse entre maintenant et le mois de juin sur le financement, alors là, le reste suivra. Voilà. Voilà une perspective un peu rapide de ce qui s'est passé. Simplement, la conclusion, c'est que les problèmes non résolus restent et qu'ils sont simplement un peu plus tendus qu'avant.
Bien, merci Jean-Charles Orcade. Il y a déjà beaucoup de choses, parfois des petites choses qui vont un tout petit peu vite, en tout cas pour moi, et je me dis, tiens, là, j'ai pas tout compris.
Ben, c'est bon, vous
donc,
vous
c'est juste pour que pour la prochaine fois, voilà, vous n'hésitez pas à développer un tout petit peu certaines choses qui vous semblent évidentes.
C'était mon quart d'heure, c'est tout.
Voilà. Alors, c'est vrai que l'histoire est importante. Un grand merci parce que ça nous met bien en perspective depuis 87-88, dans ce contexte de sécurité énergétique avec toute la participation des pays en développement, l'apparition de la notion de développement durable, et puis voilà, où est-ce qu'on situe l'enjeu nucléaire là-dedans, avec le point de fixation de Berlin, l'échec ou semi-échec de Kyoto, et puis voilà, on réouvre la boîte aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et donc ça pose toute la question, évidemment, du type de développement aussi des pays émergents. Alors, nous en sommes là, et arrive Copenhague, et c'est Sophie Gallaret qui va nous dire un petit peu quels sont les enjeux vraiment maintenant.
Oui, merci. Bon, je vous remercie pour votre accueil, hein, même si c'était un accueil impromptu ce soir. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vais reprendre un peu dans la foulée ce qu'a déjà amorcé Jean-Charles sur les enjeux de la discussion actuelle pour essayer de vous pointer un peu plus précisément pourquoi c'est si difficile d'avoir un accord en décembre 2009, alors que c'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup parler de ce fameux accord, de ce fameux sommet, et on crie déjà à l'échec. Alors, on va sans doute modérer cette perception-là, mais il faut déjà remonter à bien comprendre pourquoi c'est si compliqué. On a réouvert la boîte pour négocier, pas cette année, hein, ça fait déjà depuis la feuille de route de Bali, 2007, donc avant la crise, enfin en tout cas avant de bien palper la crise, qu'on a cette feuille de route qui doit nous engager pour renégocier un accord et faire suivre un accord au protocole de Kyoto. Alors la discussion est différente pour deux raisons. La première, c'est parce que les objectifs sont beaucoup plus ambitieux, et la seconde, c'est parce qu'on ne veut pas que la dynamique de l'accord soit la même. Alors je vais revenir sur ces deux points. Sur l'ambition de l'accord, on voudrait cette fois limiter la hausse des températures à 2 degrés. C'est quelque chose qui n'est pas encore acté, qui ne fait pas encore consensus, en tout cas dans un texte signé et ratifié par l'ensemble des pays, mais c'est quelque chose qui émane d'un consensus scientifique, notamment des travaux du GIEC, et qui semble, en tout cas, dans les arènes informelles, faire consensus. Or, limiter la hausse des températures à 2 degrés à l'horizon 2050, ça signifie des transformations assez drastiques dans nos économies, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Ça veut dire à peu près une réduction par deux des émissions à l'horizon 2050 au niveau mondial, sachant que nous, on continue quand même à émettre et on a d'autres investissements à venir qui peuvent continuer à émettre. Et puis on a les pays en voie de développement et notamment les grands émergents qui sont sur des tendances de croissance des émissions très très importantes. Et par exemple, vous avez la Chine qui a dépassé les USA en termes d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2007. Donc on est quand même avec des colosses émetteurs à venir très importants. Et comme l'a dit très bien Jean-Charles, ça signifie des investissements dans différents secteurs de l'économie qu'il s'agit de réorienter. Et ça suppose donc des transformations de tous les secteurs, aussi bien le secteur de la production de l'énergie que les secteurs de la consommation dans le bâtiment, dans les transports, donc derrière des modes de consommation et de production radicalement différents. Donc un réel challenge. Le second point qu'on doit traiter à Copenhague dans cet accord, c'est donc engager tout le monde. À Kyoto, les pays développés seuls avaient des engagements contraignants sous forme d'objectifs quantifiés et limités. Les pays en voie de développement participaient indirectement parce que les pays développés pouvaient investir dans les pays en voie de développement et rapatrier ces fameux crédits au titre de leurs engagements. Alors c'est un processus un peu compliqué, mais maintenant ce qu'on souhaiterait, c'est que les pays en voie de développement contribuent substantiellement. Alors la dynamique de la discussion tient bien compte du fait qu'il y a un principe qu'on nomme responsabilité historique des pays développés. C'est eux qui ont émis par le passé, qui ont fait qu'il y ait des gaz à effet de serre qui s'accumulent actuellement dans l'atmosphère et qui vont produire le changement climatique à venir, qui vont y contribuer en tout cas substantiellement. Donc en raison de cette responsabilité historique, les pays développés sont attendus, j'ai envie de dire, au virage pour faire des efforts très importants chez eux, mais aussi pour aider les pays en voie de développement à faire des efforts importants sur leur territoire également. Donc la dynamique de la discussion, c'est de dire continuons à engager les pays développés sur des objectifs contraignants, limités quantitativement, et pour les pays en voie de développement, adoptons une autre approche qui serait celle d'engagement de ces pays à mettre en œuvre des actions qu'on dit appropriées, donc des actions sur différents secteurs de leur économie, pas au niveau de leur économie tout entière, en tout cas pas un engagement sur des réductions d'émissions absolues, mais sur des actions qui soient en tout cas ambitieuses et qui permettent d'infléchir la tendance dans ces pays. Alors c'est là que la discussion devient compliquée parce que pour le moment, on ne sait pas trop comment ces pays vont mettre en œuvre ces actions, enfin qu'est-ce qu'ils vont proposer, comment on va les mesurer. Et là c'est un point très important dans la discussion, c'est que la deuxième dynamique, c'est que les pays développés doivent apporter le soutien technologique et financier à ces pays, en tout cas une partie. Donc il va y avoir un jeu, et il y a un jeu déjà dans la discussion sur qu'est-ce que vous allez financer, combien vous allez mettre sur la table pour que nous on investisse. Sachant que les pays développés d'un autre côté veulent que les pays en voie de développement, en tout cas ceux qui en ont le plus de capacités, c'est-à-dire les grands émergents, financent déjà une partie par eux-mêmes, puisqu'ils commencent à avoir des ressources en capital également. Et c'est là que c'est peut-être un nœud très important, le nœud du financement, qui n'est pas du tout résolu parce que les pays développés ont du mal à mettre sur la table des sommes très palpables. Et de ce fait, les pays en voie de développement sont très hésitants. Parce que d'une part, ils ne voient pas des annonces des pays développés sur des objectifs quantifiés très ambitieux, et ça on va y revenir. Et d'autre part, ils voient l'incapacité des pays développés à annoncer des sommes pour les soutenir. Alors, où on se situe là pour le moment dans les différentes annonces? Effectivement, il y a une sorte de renvoi de balle entre les États-Unis et la Chine, dans la mesure où c'est les deux principaux émetteurs. La Chine souhaitant que les États-Unis et tous les pays développés, dont l'Europe, annoncent d'abord des objectifs ambitieux avant qu'elles-mêmes ne s'engagent sur des actions plus ambitieuses, et vice-versa, les États-Unis, qui ne veulent certainement pas se contraindre et engager toute son économie à faire quelque chose de très drastique sur son territoire avant que la Chine et l'Inde ne fassent quoi que ce soit. Donc on ne s'en sort pas vraiment. Pour le moment, on a la Chine qui demande aux pays développés de faire moins 40% à horizon 2020, et uniquement sur leur territoire. Alors ça, c'est, faut comprendre que c'est une position de négociation parce que c'est très peu crédible. Les pays développés auront du mal à s'engager sur des choses aussi importantes. Alors ce qu'on a pour le moment, c'est un engagement de l'Europe à faire moins 20% à horizon 2020 et éventuellement moins 30% dans le cas où il y aurait un accord international dissatisfaisant. Alors l'Europe ne précise pas ce qu'elle entend par un accord international satisfaisant. On pourra en discuter ensuite. Est-ce qu'on a des chances de passer à moins 30 ou pas? Ensuite, les États-Unis, eux, ont un agenda national contraint par le fait qu'Obama est là depuis peu, se sent enclin à rentrer dans la dynamique et à proposer quelque chose sur son territoire, mais en même temps, ils n'ont pas finalisé leur agenda national. Donc ils sont en train de discuter différents projets de loi. Il y en a un qui est passé à la Chambre des représentants, qui propose moins 17% en 2020. Alors c'est là que l'année de référence est très importante, c'est moins 17% en 2020 par rapport à 2005. Et non pas par rapport à 1990, comme le dit l'Europe. Et donc moins 17% par rapport à 2020, en 2020 par rapport à 2005, pardon, ça fait que moins 4% à peu près par rapport à 90, alors que l'Europe propose moins 20. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais il faut bien comprendre que les États-Unis, ayant été hors du jeu pendant un long moment, sont partis sur des trajectoires d'émissions très fortes, et donc c'est pas crédible non plus de penser que les États-Unis vont tout d'un coup décroître. 2020, c'est demain. Décroître les émissions, c'est comme Jean-Charles le disait, comme je vous le disais aussi, des changements dans les infrastructures, dans les choix de consommation et de production qui sont vraiment drastiques. On ne fait pas ça du jour au lendemain très facilement. Donc même si les États-Unis demain nous disaient « je fais moins 40 sur mon territoire », on aurait du mal à y croire. Donc il y a bien aussi la question de la temporalité des engagements. Là, il y a du mal à se mettre d'accord sur le 2050 au niveau international, mais parce que ça révèle aussi des tensions sur les jalons intermédiaires. Et 2050 ne sera pas crédible si les jalons intermédiaires ne le sont pas. Et donc l'enjeu, c'est à la fois d'avoir un engagement ambitieux sur 2050, mais qu'on ait des annonces crédibles sur les transformations qui vont avoir lieu dans tous les pays à horizon 2020, à horizon 2030, pour qu'on soit sûr que le changement de trajectoire ait lieu et qu'on est en passe de réussir le pari. Parce que ce qui est important, ce n'est pas uniquement les émissions annuelles, mais c'est bien ce qu'on va cumuler sur la période. Donc si on annonce un objectif de réduction par deux à 2050, mais qu'entre-temps, on dévie drastiquement à horizon 2020-2030, on a déjà cumulé beaucoup trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour prétendre réussir à limiter les hausses de température. Donc pour revenir sur les différents engagements ou propositions d'engagement, on voit qu'on a une tension dans la mesure où les États-Unis et l'Europe, mais également l'Australie et le Japon, sont un peu en deçà des attentes des pays en voie de développement. Alors dans les recommandations du GIEC spécifiaient des réductions comprises entre 25 et 40% à horizon 2020, et on n'est pas du tout, même pas sur la fourchette basse de cette fourchette pour le moment dans les annonces actuelles. Et dans l'imaginaire collectif, enfin, étayé par différentes publications scientifiques, on estimait que les pays en voie de développement devaient dévier leurs émissions de 15 à 30% par rapport à des projections. Alors ça, c'est un concept assez difficile à interpréter parce que les projections d'émissions, on peut leur faire dire ce qu'on veut, donc ça signifie pas grand-chose. Donc c'est bien de revenir à une discussion sur la mise en œuvre de différentes actions, différents investissements dans ces pays-là et essayer de les crédibiliser dans l'arène internationale pour comprendre s'il se passe quelque chose vraiment sur ces territoires ou pas. Là où on va avoir aussi un souci dans la discussion, c'est sur ces conditions de transparence des actions. La Chine l'a annoncé, vous avez dû en entendre parler, une action qui consiste à réduire l'intensité carbone. Alors l'intensité carbone, c'est ces émissions rapportées par unité de PIB de 40 à 45%. En 2020, oui. Ce qui est très ambitieux, tout de même, mais qui signifie qu'elle ne s'engage pas sur un objectif absolu. Elle s'engage bien sur un objectif tout à fait relatif qui lui permet de garder une marge de croissance et de développement. Elle ne veut pas pénaliser la croissance, ça c'est un autre principe clé dans la négociation. Les pays en voie de développement revendiquent le droit à la croissance. Mais donc, elle annonce ce premier objectif quantifié. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle en rendra compte au niveau national. Elle ne veut pas de système d'observance au niveau international. Et c'est là qu'on a également un blocage. C'est que les pays développés veulent bien apporter du soutien financier aux pays en voie de développement pour qu'ils fassent quelque chose chez eux. Mais évidemment, ils aimeraient bien avoir un regard sur ce qui va se faire, donc ce qu'on appelle la mesure, le reporting et la vérification des actions, mais aussi du soutien financier. Donc à la fois pour être sûr qu'on atteint les objectifs globaux qu'on s'est fixés, et aussi pour comprendre comment utiliser l'argent qui sera mis sur la table. Donc peut-être pour conclure également sur ces financements, l'Europe avait publié une communication dans laquelle elle estimait les montants à 100 milliards d'euros d'ici 2020 pour financer les investissements dans les pays en voie de développement. On ne sait pas trop encore comment. Il y a besoin de différents instruments, aussi bien le marché carbone dont on parle beaucoup, qui est certes important mais qui ne sera pas capable de créer toutes les incitations pour faire les bons investissements dans tous les secteurs et dans tous les pays. Donc, comme le disait également Jean-Charles, on a besoin de finances publiques et ce, à une échelle bien plus considérable que ce qu'on a connu jusqu'à l'heure actuelle. Et ça, pour le moment, les pays développés ont du mal à faire des annonces conséquentes pour réinstaurer de la confiance dans la discussion et faire en sorte que ça débloque aussi l'accord autour de qui fait quoi, comment et pour combien. Un autre blocage quand même important, c'est le conflit entre l'agenda national des États-Unis et l'agenda international. Je commence à évoquer ça. Obama a donc besoin, pour s'engager internationalement, d'être sûr qu'il aura son accord au niveau national, donc qu'il valide et qu'il fasse passer d'abord sa loi qu'il est en train de préparer. Et pour le moment, la loi est passée à la Chambre des représentants. Il y a une autre loi qui est en discussion au Sénat. On n'aura pas ça en décembre. Ça va prendre plus de temps. Donc les annonces qu'a fait Obama, finalement, sont assez conservatives dans la mesure où elles reprennent les objectifs annoncés dans le projet de loi qui a été passé à la Chambre des représentants, le fameux moins 17%. Ça va être difficile d'avoir plus, a priori, des États-Unis, vu leur marge de manœuvre sur l'agenda national. Les États-Unis sont par ailleurs assez opposés à l'idée de prendre un engagement au niveau international. Ils estiment que l'engagement au niveau national, rendre des comptes au niveau national suffit pour être crédible au niveau international. Donc il y a aussi une opposition, et pas des moindres, sur la nature de l'accord qu'on va signer. Et donc il y a grosso modo un rejet des États-Unis pour signer quelque chose qui ressemblerait à une continuation d'un protocole type Kyoto. Et là aussi, on va se heurter donc à des difficultés, cette fois d'ordre juridique, qu'on peut sans doute lever par d'autres biais. Tout ceci amène sans doute beaucoup de discussions sur à quelle issue aux négociations. Donc, je pense qu'on reviendra là-dessus dans le cadre de la discussion, donc je vais m'en arrêter là.
Merci beaucoup, Sophie Guélaret, pour cette clarté de cette présentation des objectifs à partir de la feuille route de Bali, donc l'objectif de la limite de la hausse des températures à 2% en 2050, avec toute la question que vous avez soulevée des changements drastiques de nos économies. Et puis l'enjeu que tout le monde soit partie prenante, les pays développés, mais pas simplement, les pays en voie de développement, comment les aider à rentrer justement dans cet accord, avec donc évidemment la question centrale du financement d'un tel accord, et puis du rôle des États-Unis, de la Chine avec leurs propres agendas, et puis la question évidemment du contrôle, de la vérification des objectifs et de l'usage justement de l'argent. Alors, je crois qu'on a un petit peu la toile de fond. Il y a encore beaucoup de choses qui sont évidemment peut-être pas très claires. On n'a jamais eu autant de temps pour le débat, c'est formidable. On va pouvoir démarrer assez vite le débat. Je voudrais commencer en posant une question avant de passer le micro sur la position de la France plus particulièrement. On a vu le président Sarkozy très actif ces derniers jours, ces dernières semaines sur cette question de la préparation du sommet de Copenhague. Alors, quel rôle, quel jeu joue la France un petit peu dans ces négociations-là? Quelle est sa position? Je ne sais pas qui veut répondre.
Est-ce qu'il y a des jokers un peu?
Alors, je ne sais, il ne faut pas deux jokers, hein, parce que sinon je...
On aimerait bien celle-là.
Non, mais je peux, enfin...
Non. Allez.
Je ne sais pas, Jean-Charles. Commencez,
vous vous compléterez.
Je
vous complétez très bien.
Alors, vous répétez pas trop, mais la France est
vous
un pays.
Vous faites bip quand vous voulez.
Est un pays qui, en Europe, historiquement, est important dans ces négociations, mais qui n'est pas au cœur de ces négociations. Les deux pays clés, c'est les Anglais et les Allemands. Deuxièmement, pourquoi ça? Parce que la France a traité ce dossier de façon distraite pendant longtemps, et comme façon, enfin, j'ai trouvé une façon polie de dire les choses. Il y a un trait du caractère français qui est de passer de la distraction à une certaine forme d'arrogance dans la capacité que nous aurions à dire au monde quelles sont les grandes idées que la culture française peut mettre sur la table. Donc, actuellement, si vous voulez, ma position, je connaissais bien comment je vois notre degré de préparation technique. On a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Comme je suis plus dégagé, je peux le dire peut-être comme ça. Voilà, donc je pense que la France jouera un rôle intéressant, que c'est très bien que Sarkozy dise que l'Europe doit aller vers des objectifs ambitieux. Très bien. C'est très bien qu'il fasse des choses avec le Brésil. Tout ça est très bien. Je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses à ce qui va se passer, en réalité. Voilà, c'est une position très personnelle. C'est pour ça que j'avais dit joker.
Sophie.
Je vais compléter brièvement. Enfin, je pense que là...
Je suis plus optimiste, hein, moi.
Non, je suis pas d'avis très optimiste sur la position de la France par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur la négociation. Par contre, là où il y a peut-être un enjeu, c'est sur la décision de passer de moins 20 à moins 30 en fonction de Copenhague. Alors, initialement, le texte énergie-climat, enfin le paquet énergie-climat qui donne l'objectif pour l'Europe de moins 20% de réduction de gaz à effet de serre à 2020, qu'on a eu là en décembre 2008, stipule qu'on attend Copenhague pour aviser si on passe à moins 30, et ça dépend de l'issue de Copenhague. Bon, là, il y a a priori des discussions qui font que peut-être il va se passer quelque chose pendant Copenhague pour passer à moins 30, et vu qu'il y a eu beaucoup d'annonces récemment, l'Europe a aussi un intérêt à montrer qu'elle reste proactive. On la menace d'être moins ambitieuse que prévu dans la mesure où les derniers chiffres d'émissions montrent finalement que réussir moins 20, c'est peut-être pas si compliqué, et là peut-être que la France a un rôle à jouer, alors pour le moment c'est peut-être pas le cas, mais à pousser et fédérer des pays à passer de moins 20 à moins 30, mais là encore c'est un avis assez personnel.
Alors par contre, je peux rebondir. Hein, je suis plus à l'aise pour rebondir. Hein. Parce que ça me permettra peut-être un débat, mais une distance par rapport à ce qui a été dit. Ma conviction personnelle, et c'est un peu l'histoire, et comme ça, vous pourrez réagir là-dessus, c'est que si vous voulez, on a un problème avec cette affaire de moins 20, moins 30. On reste dans cette logique qui date de Berlin, qui consiste à dire aux gens, écoutez, on a bouffé deux tiers du gâteau, il reste un tiers à se partager, vous allez voir ce que vous allez voir, on va être vachement gentil. On va vous laisser un bout très conséquent. Je vous promets que ça, le degré de crédibilité est voisin de zéro. Évident qu'ils n'y croient pas. Et je trouve que l'Europe, en raisonnant sur des quotas, en disant, regardez, est-ce que je vais être bon là, je vais faire du moins 20 puis du moins 30, je pense... simplement qu'on n'est pas crédible, que ça se verra après Copenhague, que je pense personnellement de façon très forte, et qu'il faudra après Copenhague qu'on reconstruise des positions européennes qui se construisent sur une logique qui ne soit pas la même. Parce que, vous comprenez, dire ça, on va être vertueux et rabioter de savoir est-ce que je vais mettre 2 milliards ou 3 milliards sur la table, il faut savoir que l'Europe n'a pas fait le moindre effort à Kyoto pour qu'on taxe les échanges de permis, qu'on n'a pas progressé beaucoup sur les taxes sur l'aviation. Enfin, vous comprenez? Donc il y a une sorte d'écart entre je vais être très vertueux et puis rien derrière. Alors pour dire le risque que je vois historiquement sur cette affaire de la polarisation sur les quotas, c'est que c'est facile de dire je vais être très vertueux. J'étais dans un débat public quand Chirac a été élu et Madame la Première ministre de l'Environnement, le nom en tête, ça va me revenir. J'étais donc sur un plateau de télévision et quand même l'UMP n'était pas traditionnellement connu comme un parti très écologiste. Et je vois quelqu'un était assis là qui dit mais le gouvernement a décidé de diviser les émissions de la France en 2050 par 4. Moi, qui suis plutôt actif dans cette affaire, je vous dis, ça me paraît difficile qu'on y arrive. Donc c'est facile de se battre sur des annonces, voilà. Donc c'est une voilà, donc c'est une façon de répondre. Alors au risque, c'est que le risque, c'est qu'on ait beaucoup de d'agitation sur les objectifs et que ça soit un piège pour la discussion.
Donc ça veut dire qu'il faut changer de logique.
Oui.
Et alors je vais dire quelque chose de terrible. En deux mots, c'est quoi le changement de logique?
Qu'est-ce que je mets aujourd'hui sur la table en matière de financement? Deuxièmement, ils savent tous, ils disent le contraire, mais nos collègues en Chine et en Inde savent très bien qu'on ne va pas demander aux Français de payer beaucoup à des gens dont certains rachètent notre sidérurgie. Bon. La question de fond, c'est qu'on doit mettre sur la table des mécanismes de réforme des financements internationaux, les banques de développement, les assurances pour ces banques de développement, le rôle des banques centrales pour soutenir les investissements. En gros, mon rêve, mais ça c'est pas demain ça, hein, c'est de dire si les banques de développement du monde se disent on est d'accord pour financer des projets avec une valeur implicite du carbone qui va monter à 100 et 120 euros, et si ça se fait pas, on assure ça. D'accord? Ça commence à être crédible. Parce que dès demain, vous aurez des banques qui investissent. Il y a l'Agence française pour le développement qui commence à faire des simulations sur un truc comme ça. Parce que, en gros, le problème est le suivant. Une phrase, c'est de dire, si vous croyez qu'il y aura un prix du carbone parce qu'il y aura des accords internationaux, rappelez-vous que 50 euros la tonne de carbone, ça double le prix du ciment en Inde. Donc les Indiens n'accepteront jamais, parce qu'ils ne croiront jamais que nous, Français, allons payer leur surcoût de ciment pour construire leur maison. Si on dit, en revanche, on va permettre à l'AFD, aux banques de financement, d'intégrer déjà le fait que le vrai prix du carbone à long terme, ça sera 100, 110, 120, etc., et qu'on va prendre des mesures de réforme des systèmes financiers internationaux et de réforme des mécanismes de financement qui permettront de couvrir l'assurance, à ce moment-là, on a une chance d'être crédible. Mais c'est pas les objectifs, hein. C'est qu'est-ce qu'on met sur la table. Il y a un rapport de la Banque mondiale, hein, qui vient de paraître, hein, et qui discute prudemment, mais qui discute de ça. Quelles sont les réformes des systèmes financiers qu'on met en place dans les 2 ans qui viennent?
Très bien. Sophie, vous vouliez peut-être sur ce point, vous pouvez ne pas être d'accord.
Ah oui, c'est exprès.
Non, moi je suis assez d'accord sur l'idée que les objectifs en tant que tels, voilà, en plus on sait que ces objectifs-là, tels dans la perspective de Kyoto, on annonçait moins 20, mais on pouvait faire à l'extérieur, donc finalement on faisait pas grand-chose sur le territoire européen, et dans la logique même du paquet climat, quand on dit moins 20, en fait, on fait moins 15, bon, à modulo plein d'hypothèses, mais quand même, on ne fait pas vraiment moins 20, et quand on fait pas moins 20 et qu'on fait moins 15, ça veut dire qu'on retarde autant de décisions d'investissement et qu'il y en a d'autres qui se font, et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, et que c'est d'autant plus compliqué après de rattraper la trajectoire. Donc les objectifs en tant que tels, effectivement, moi je suis d'accord avec Jean-Charles, ils veulent rien dire si derrière on n'a pas d'autres systèmes, des outils crédibles pour financer et investir là où il faut.
Bien, on va faire circuler le micro avec peut-être un certain nombre de questions. De questions de précision ou bien aussi de conviction, d'interpellation.
Oui, bonsoir. C'est juste une question de précision et d'histoire. On a parlé des modes de contrôle de la réalisation des objectifs, ce qui est certainement une question importante. Est-ce que vous pouvez préciser le point où on en est, ce qui s'est déjà fait pour le protocole de Tokyo et ce qui est en discussion actuellement? Est-ce que c'est de l'ordre d'un organisme international qui serait déjà en place? Est-ce que c'est l'agence de l'environnement? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qu'on peut envisager? Voilà, faire un peu le point là-dessus.
Merci. On va prendre peut-être 2 ou 3 réactions et questions. Il y en a une derrière, tout au fond.
Oui, je voulais savoir, suite à un récent reportage à la télévision, comment on va faire pour convaincre les Chinois de ne pas se précipiter pour acheter des millions de voitures, et pareil pour les Indiens, là je comprends pas. Et le fondement au départ de cette espèce de cercle vicieux de dire on paye, si on paye, on a le droit d'être toxique, et les autres aussi, ils ont le droit d'être toxiques, mais je comprends pas la logique, le fondement initial de ce... Je comprends pas.
C'est autre chose, ça.
Merci.
Ah, mais tout va ensemble, mon ami.
Oui, merci pour la question. Autre, voilà, tout au fond également, de l'autre côté. puis on va redonner la parole après à nos invités.
Merci. Vous nous avez parlé, le voisin droit du père Bouédec, d'augmentation de température moyenne au début de votre exposé à 2 ou 3 reprises. Moi, je serais obligé de me préciser ce que c'est qu'une température moyenne et comment on la constate.
Voilà. Alors, on peut peut-être démarrer par cette bonne question.
Oui. Bon, alors, je ne suis pas climatologue, mais je connais assez nos collègues. Alors, c'est une très bonne question, parce que dans la communication scientifique, et c'est un des problèmes du GIEC, hein, il y a une distinction, si vous voulez, entre ce que les contenus de ce que dit le GIEC et comment ensuite c'est interprété et médiatisé. Alors, ça veut rien dire de degrés. Vous avez des modèles, ces modèles projettent un climat, et il y a des endroits où ça fait du plus 6, des endroits où ça fait du 1, des endroits où ça fait du 0,5, et pour communiquer ça, on dit, ça fait une moyenne de 2. Jour, nuit, hiver, hiver, été. Donc ça, c'est un indicateur. Voilà. Là où c'est pas totalement idiot, c'est que et ça, les collègues du climat, autant le GIEC ne dit jamais, il faut rester en dessous de 2 ou 3. Il donne simplement ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que les modèles climatiques, leur domaine de validité de leurs équations, dès qu'on passe quelque chose qui ressemble à ce 2 degrés en un siècle, la crédibilité de ce qu'ils calculent est faible, parce que simplement ils pensent qu'il peut se déclencher des mécanismes non linéaires qu'ils ne maîtrisent pas. Donc le 2 degrés, ça n'a rien à voir avec une preuve, hein, ça a à voir le 2 degrés artefact dont je parle là. C'est le moment où les climatologues se disent, là, jusqu'à maintenant, les approximations linéaires qu'on peut faire dans nos modèles sont en gros crédibles, au-delà, elles ne sont pas crédibles. Ce qui est quand même une sacrée information. Mais ça veut dire qu'ils ne savent pas en dire plus. Voilà. Donc c'est une réponse rapide à votre question. Mais c'est un vrai débat, hein, ça. C'est un débat compliqué. Voilà. Mais le GIEC est prudent là-dessus. Il est tout à fait clair là-dessus. Voilà. Mais ça veut dire 2 degrés, ça peut vouloir plus 6 dans certaines régions. Hein. Ça veut dire quand même que ça peut être des chocs thermiques importants. Voilà.
On travaille donc sur des bases qui ne sont pas définies.
Lesquelles ?
Si on ne sait pas ce que c'est qu'une température moyenne et si on décide que, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, qu'il n'y a aucune crédibilité au modèle d'augmentation à partir de je ne sais pas combien de décennies, pourquoi y en a-t-il dans les 20 ans qui viennent ? Et il n'est quand même pas indifférent de trouver quelque chose de précis à répondre à cette interrogation, dont vous convenez qu'elle existe.
Non mais bien sûr, non mais attendez, il faut préciser ce que ça veut dire ça. Les modèles sont calibrés pour reproduire, c'est dommage que j'ai pas les transparents de nos amis. Faut savoir ce qu'est un modèle, hein. Et là, sur le fait de les bases scientifiques ou pas, faut quand même savoir ce que c'est que la science. La science fonctionne avec des modèles, des façons de résumer de l'information. Puis vous avez les moments où ça marche bien, les moments où ça marche mal. Sur le climat, les modèles sont calibrés pour reproduire ce qu'on connaît du climat passé sur des millénaires. Et ils le font de façon relativement fiable. Ils ont aussi une chose qui est importante, c'est que quand on injecte dans ces modèles des doses de gaz à effet de serre, ça réagit à peu près comme ça a réagi dans le passé. Donc ça, c'est la validation du modèle. Comme moi, quand des modèles économiques, je sais, tiens, ça réagit plutôt dans le bon sens, c'est conforme à la théorie, c'est conforme aux équations. Les équations qui sont là-dedans, c'est pas n'importe quoi, c'est des questions de chimie, de physique de l'atmosphère, de lois physiques et chimiques que l'on connaît. Donc, mes équations sont là, elles reproduisent les lois. J'ai une théorie qui me dit ça, c'est pas idiot. Je cale sur le passé, et ça marche pas trop mal. Puis là, scientifiquement, je dis, je projette. Et je dis, tiens, je trouve des choses. Et je trouve que ça chauffe. Et puis, je me dis, mais mes équations là, qui sont, je fais ce que je peux, elles sont valides, elles sont valables dans un certain nombre, dans une certaine borne. Et, parce qu'on fait un peu de mathématiques, ces approximations linéaires, hein, si vous voulez, on décompose, ça permet de calculer beaucoup plus vite. Et il y a un problème, c'est à partir de quel moment cette approximation, elle est valable ou pas. Ils disent, tant que je suis sur un sentier autour de plus 0,5, 1, 1,5, 2 degrés,
je peux certifier que ce que je fais ne viole pas, enfin, c'est complètement crédible. Quand je passe au-delà, je ne peux pas prétendre, dans ces équations, avoir résolu des phénomènes non linéaires potentiels, parce que les océans, à un moment donné, ont des phénomènes de rupture que je ne peux pas prendre en compte, parce que ce qui se passe dans la salinisation de la mer, je ne peux pas savoir, parce que ce problème de l'interruption du Gulf Stream, je suis incapable de prétendre que mes équations peuvent le faire. Donc, à la limite, quand les sceptiques disent tout ça, pas prouvé, attendez, à ce moment-là, il n'y a aucune science qui tient. Le truc est le suivant, c'est que si on pouvait dire quelque chose de façon plus, si le GIEC voulait vraiment mettre le doigt là-dedans, on dirait plutôt que le GIEC sous-estime les risques plutôt qu'il les surestime. Quand on discute en face à face avec nos collègues, ils se retiennent de dire ce qu'ils pensent vraiment. Ils pensent qu'ils sont plutôt par défaut que par excès. Et ça fait 10 ans que ça dure et 15 ans que ça dure. Donc il faut faire attention à ce genre de... Donc ils sont assez honnêtes pour reconnaître, comme tout scientifique, les domaines de validité et de non-validité de leur modèle. Si vous voulez en parler en économie, je peux vous dire à peu près la même chose. Et donc il ne faut pas prendre prétexte du fait qu'ils reconnaissent qu'il y a tel domaine de non-validité pour dire ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire dans ce domaine. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc c'est une réponse.
Merci. Oui. Sur le mode de, on reprend les autres questions, le mode de contrôle de réalisation des objectifs, notamment après Kyoto, Sophie.
La Chine, je prendrai ça.
Oui, on va reprendre peut-être déjà ce qui existe sous Kyoto, parce qu'il y a déjà des acquis, effectivement. Donc la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont émane le protocole de Kyoto, il y a bien un système pour faire du reporting et de la mesure de la vérification d'émissions. Alors évidemment, comme c'est les pays développés qui ont un objectif contraignant et que les pays en voie de développement n'ont pas d'objectif contraignant, on n'est pas sur la même nature de reporting. Tous ont normalement la nécessité de produire une communication nationale sur qu'est-ce qu'ils font et où ils en sont dans leurs actions et un inventaire de gaz à effet de serre. Et tout ça, c'est harmonisé avec des méthodologies de comptabilisation. Et là où ça va plus loin pour les pays développés, c'est que derrière, on instaure de la vérification et éventuellement des sanctions sous Kyoto. Il y a des sanctions dans le protocole de Kyoto en cas de non-respect des engagements. Et tout ça est effectivement, là encore une fois, bien soumis à un processus d'expertise et d'harmonisation sous cette convention cadre des Nations Unies et sous le protocole de Kyoto. Alors, dans le futur accord, c'est plus compliqué dans la mesure où, comme je vous disais, il y a la nature d'engagement qui est différente et on ne l'a pas statué. Donc pour le moment, on ne sait pas trop comment ça va se faire, ce reporting, cette mesure, cette vérification. On en débat, bien évidemment, mais ce n'est pas encore clair et ce n'est pas du tout réglé. On imagine que les pays en voie de développement pourraient enregistrer les actions qu'ils vont plaider, sur lesquelles ils vont s'avancer dans un registre. On pourrait mettre ça dans un registre. Mais par contre, qu'est-ce qu'on assimile à ce registre? C'est pas encore clair. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure la mise en œuvre? Est-ce qu'on mesure le résultat? Tout ça n'est vraiment pas clair et fait pas du tout consensus pour le moment. Donc c'est encore une question cruciale, ça c'est évident, mais elle n'est pas du tout réglée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Kyoto, il y a eu le protocole et il a fallu encore plusieurs conventions des parties pour régler le détail de ces mesures reporting et vérification. Donc là encore, de toute façon, il y a un souhait pour une harmonisation et faire en sorte que quand on parle d'engagement et de mesures d'émissions de gaz à effet de serre, on puisse être comparable et savoir de quoi on parle.
Merci Sophie. Alors, nos amis chinois, nos amis indiens, difficile peut-être de penser qu'on peut les convaincre de ne pas consommer.
Vous me permettez une seconde, parce que j'ai un petit... je trouve que la question posée par monsieur sur le 2 degrés est importante. Je ne peux pas y répondre, bien sûr, plus avant. Je vous conseille vraiment de lire le dernier bouquin, il vient de paraître, de Hervé Le Treut. Flammarion, Hervé est l'un des rares, enfin les rares, ils sont plusieurs, mais c'est LE modélisateur climat depuis 20 ans.
Alors, vous pouvez redire le nom.
Hervé Le Treut, H-E-R-V-E Le Treut, c'est un normalien.
Breton.
Il est, je peux vous le dire, et c'est important que je le dise moi, ici, parce que je partage le même diagnostic que lui. En gros, vous verrez comment il a justement écrit son livre. Qui va tout à fait répondre à vos questions, je pense. Parce que on est pris en squeeze, en temps allègre, qui dit tout ça, c'est une courbe stupide,
Et puis, Yannick Bertrand, qui vous fait trembler tout le monde, Bernard Hulot, Nicolas Hulot, voilà. Et on est complètement pris. Attendez, des gens comme lui ou moi, à différents niveaux, on passe des heures sur cette affaire du climat depuis 20 ans. Et alors, on est complètement pris médiatiquement entre des gens qui font dire au GIEC des choses que le GIEC n'a jamais dit, justement pour rester scientifique, et les gars qui disent tout ça, ça vaut rien. Alors, je pense qu'il est important, et c'est notre responsabilité, je pense qu'on va devenir plus agressif dans le futur, d'où aujourd'hui le fait que quelque chose que je ne dirais, j'aurais jamais dit auparavant, je pense que nous avons, nous scientifiques, la responsabilité de lutter contre les utilisations catastrophiques de ce qu'on fait. Non pas pour dire qu'il faut rien faire, mais c'est parce qu'autrement, on disqualifie le dossier. C'est pour ça que j'ai commencé par l'affaire de la métaphore de la voiture. Je ne sais pas s'il y aura du verglas, mais j'ai assez d'indices pour penser qu'il pourrait y en avoir. Voilà. Et on s'arrête là, et c'est déjà assez. C'est déjà très bien. Voilà. Donc le bouquin d'Hervé Le Taux, je vous conseille vraiment de le regarder, il est excellent, et je vous promets que c'est le gars qui connaît le dossier depuis 85. Il a commencé par là, quoi. Donc c'est un des meilleurs connaisseurs du monde. Hein. Voilà. Sur l'affaire de la Chine que je vais lier, j'ai senti une question sur qui paye, et qui continue à polluer, etc. Alors je ne vais pas faire des beaux auteurs, mais j'ai écrit pour études dans les années 90, je sais combien. Le climat est-il une marchandise ? Voilà. Alors, je vais commencer par là et venir aux Chinois après.
Oui, très bien.
Non, mais c'est important parce que c'est comme pour l'affaire, est-ce que c'est de la manip scientifique, nulle, etc. Là, c'est pareil, est-ce qu'on n'est pas des gars qui marchent sur les autres ? Et tant que ça, c'est dans la tête des gens, pas la peine de parler d'autre chose. On est sur des peurs métaphysiques. Bon. Alors, là, il y a une responsabilité, je pense, y compris des économistes qui n'ont pas été assez fermes là-dessus, c'est leur faute, et qui ont laissé passer des messages trompeurs. On a laissé passer l'idée du pollueur-payeur. Alors, c'est pas mal, pollueur-payeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je pollue et je paye, quoi. D'accord ? Voilà, puis c'est fini. Et de fait, ça peut être caricaturé dans le style, ça change rien, c'est une bulle financière de plus, on met du pognon partout, etc. Et si je pense, comme moi, que tout n'est pas marchandisable, c'est une horreur morale. Bon. Alors, une autre façon de prendre le problème, c'est le suivant. Nous avons, je viendrai aux Chinois tout de suite, nous avons, à ne pas se poser le problème du prix, fait quelque chose que je trouve scandaleux pour la société française depuis les années 80. Vous prenez le prix du pétrole. Je ne pensais pas de prix, ça existe des prix. Au moment où beaucoup d'entre nous pensions qu'il fallait prendre une taxe déjà dans les années 80, parce que le prix du pétrole était trop bas. Et puis, vous avez le prix du mètre carré, le prix des logements. Le prix du pétrole, il a fait ça. Hein. Alors, je le sais pour vous, c'est dans le sens de la chose. Il a été à peu près stable en pratique, en francs et en euros constants. Le prix des logements a augmenté par 3 ou 4. Le prix, le coût des charges sociales par heure de travail a été multiplié par 6. C'est vous dire que ne pas parler de prix, on se retrouve avec des banlieues qui sont comme ça, avec des gens, des banlieues qui ont permis une ségrégation sociale beaucoup plus forte qu'avant, avec des banlieues riches et des pauvres, avec des banlieues tellement étalées qu'on a, c'est pas vrai qu'on pourra donner une densité de services publics suffisante. Ma ville natale était entourée maintenant de petites banlieues comme ça et de gens qui font des tours dans leur lotissement et ils vont s'approvisionner au supermarché du coin. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu poser le problème du prix. Mais c'est pas du pollueur payeur, c'est donner aux gens qui sont pas riches. C'est passé comme ça, Paris s'est vidé comme ça. On a fait croire aux pauvres, aux moyens quoi, qu'ils allaient avoir une... C'était mieux là-bas, plus loin dans la banlieue. Mais là encore, Paris, c'est très bien, hein, y a que des bobos. C'est pas vrai d'ailleurs, mais bon. Donc, le problème, c'est qu'à mentir aux gens sur le prix des choses, on est spécialement injuste. Et ça, je trouve que les économistes, avec leur histoire de pollueur-payeur, ont de fait généré ce que vous dites, cette suspicion de marchandisation. Deuxièmement, l'erreur, c'est que le prix, ça fait pas tout. Le prix, c'est simplement ne pas mentir aux gens. Le prix de l'énergie est plus cher que ce qu'on croit. Et que si vous le voyez pas, vous allez être piégé par des mécanismes de bulles financières sur le pétrole, qui vont vous tomber sur le rable au moment où vous y attendez pas. Ou bien vous allez subventionner tout ça. Donc ça veut dire que là, l'idée, c'est de restaurer la vérité des prix. Par contre, il faut faire autre chose. Les questions de financement. C'est pas parce que les prix seront dans le bon sens que les gens investiront. Il y a des problèmes de risque. Les questions d'équité. Les questions de redistribution. Les questions de toutes les autres politiques. Les normes. Les plans d'urbanisme. Pourquoi les maires diantres, ils ont vendu des terres arables, transformées en terres à bâtir? Ben, c'est facile. Le prix de la terre, le mètre carré, c'est passé de 3 francs à l'époque, c'était du temps, à 200 francs. La rente là-dedans. Tout ça, c'est pas uniquement le prix du carbone. C'est bien sûr aligner un ensemble de politiques, d'aménagement, de politiques technologiques, de politiques d'urbanisme pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc, l'affaire du prix, c'est pas marchandiser, c'est sûrement pas ça, c'est ne pas mentir aux gens. Voilà. Donc ça, c'est donc pour moi très clair. Les Chinois maintenant là-dedans, ben les Chinois, ils sont comme nous dans les années 50. Et eux, ils ont un problème précis. Ils le savent, ça, on discute avec eux quand même. Hein. Bon, c'est la chose suivante. La dynamique du développement en Chine et en Inde fait qu'évidemment on va pas leur interdire de prendre la voiture, évidemment. La question, c'est qu'ils savent très bien, une Chine dans 20 ans, c'est vite 20 ans, hein, c'est très vite 20 ans, sera hyper dépendante du pétrole. Une Chine dans 20 ans est une Chine dont le taux d'accumulation, alors ça veut dire quoi, la part du PIB qu'ils épargnent, va passer de 47%, ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils économisent 47% de leur PIB, on n'a jamais vu ça. Ils le mettent aux États-Unis une grande partie, hein. D'accord? Bon. Pour leur vieux jour. Mais en 2020-2030, ils seront comme nous. Trop de vieux, pas assez de jeunes. À cause de l'effet à long terme de la politique de l'enfant unique du Parti communiste chinois. Leur taux d'épargne va passer de 47 à 15%. Le moindre choc pétrolier d'une Chine qui continue sur la trend actuelle, c'est une catastrophe économique. Une Chine à 47% de taux d'épargne peut s'adapter à un choc pétrolier. Une Chine, dans 20 ans, très dépendante de l'énergie, ne s'adaptera pas à un choc pétrolier. Donc les Chinois savent que là, on est sur un volcan. On est surtout sur un lieu de tension, un lieu de guerre, un lieu d'affrontement. Il faudra qu'ils achètent des puits de pétrole, des terres, ailleurs. Bon, et ça, ils le savent. Donc, les Chinois et les Indiens savent déjà qu'il faut s'arranger différemment. Comment on peut les aider pour le faire? Ça, c'est autre chose. Je vous signale qu'aujourd'hui, Renault travaille beaucoup avec les Chinois et avec les Indiens, parce qu'ils pensent que la façon dont la première motorisation, l'équivalent de nos vélos Solex, on va dire, ou notre deux chevaux, hein, de quand j'étais jeune, vous étiez déjà... la façon dont ils vont acheter leur première deux chevaux, est-ce qu'elle sera efficace ou pas efficace, électrique ou pas, si elle est électrique, avec quelle électricité, ça c'est décisif. Le problème n'est pas du tout de les empêcher d'avoir une voiture, ça c'est complètement fou. C'est par contre de les aider d'abord à avoir des plans d'urbanisme qui tiennent, et là c'est pas seulement pour du carbone, c'est le mètre carré, c'est les investissements, le soutien aux investissements sur le rail, la route, etc. Le soutien à la qualité de leurs bâtiments, bien climatisés ou pas climatisés, ça c'est tout de suite. Et ça rapporte tout de suite, c'est pour les gens tout de suite aujourd'hui, et éventuellement. Bien entendu, concernant la voiture, le fait de savoir en quelle mesure le type d'innovation sur les véhicules les aidera à avoir un type de développement qui ne soit pas strictement mimétique à ce qu'ont connu les Américains. Donc ça, c'est tout à fait actuel. Et ça, ça ne se fait pas uniquement avec des prix, hein, bien sûr. Voilà. Donc les Chinois et les Indiens, ils pensent déjà.
Merci. Alors nous allons reprendre une série de questions. Voilà, il y en a une à peu près au milieu, oui.
Oui, moi je vais peut-être redescendre encore. On était chez les Chinois, on va redescendre au niveau des Français. Tout le discours que vous tenez est un discours macroéconomique, bien entendu. Mais la macro, c'est jamais que l'addition des comportements micro. Et donc, en France, tout à l'heure vous parliez d'argent et qu'il faut mettre sur la table. Mais il est évident que, par exemple, quand on sait, vous pouvez parler de la taxe carbone, hein, mais moi, comme je connais pas bien, d'abord le mot taxe est très mauvais, c'est ça qui est un problème de communication. Mais j'en prends dans d'autres situations. Si je prends le secteur du bâtiment, pour mettre à niveau les bâtiments existants qui représentent 90% du parc immobilier français. Il faut compter, peut-être que vous pouvez contester les chiffres, mais il faut compter 30 000 euros par ménage. En tout cas, c'est ce que des économistes bâtimentaires disent. Quand on sait que des constructions nouvelles avec des réglementations thermiques 2012 vont coûter 15 à 20% plus, surtout si on met de la basse consommation, il y aura un coût pour chacun d'entre nous. Donc comment on peut faire passer le message, alors on peut faire passer le message du comportement des Chinois, mais comment on peut faire passer le message en France auprès de chacun d'entre nous, car c'est nous qui allons contribuer par la sommation de nos comportements à la résolution du problème global, je pense.
Merci. Autre question, conviction. Alors, oui, et puis après devant.
Pourriez-vous nous préciser cette proposition que Nicolas Sarkozy semble avoir concoctée avec le président Lula, et si cette connivence avec un acteur majeur comme le Brésil a quelque chance d'influer sur les débats de Copenhague? Merci.
Merci. Et puis il y avait une autre question là devant, et puis après on... au milieu, là. Levez bien le doigt, on vous voit.
Peut-on affirmer que le gaz carbonique soit le seul responsable des modifications climatiques que l'on voit actuellement avec le méthane ou autre? Il y a beaucoup d'autres causes qui pourraient être également évoquées, et on sait que l'histoire du climat de la Terre, le peu que l'on sache, tout au moins pour moi, a été une série d'évolutions souvent catastrophiques.
Je reviens sur la science,
il y avait l'autre. D'accord. On va laisser. Oui, alors, vous attendiez depuis longtemps, donc allez-y.
Monsieur aussi, même.
Comme il reste 10 minutes, je reviens sur ce que vous avez dit. C'est. Quelle attitude
avoir? Et lâcher un peu l'intellectuel et le politique et répondre à cette question.
Ce qui n'est pas sans lien avec une des questions précédentes.
Oui, tout à fait.
Bon. Alors, qui veut commencer?
Jean-Charles.
Mais alors, pas trop longtemps, pour aussi qu'on puisse entendre Sophie. Enfin, voilà.
Mais peut-être, Sophie, tu veux pas y aller sur le Brésil et puis sur Lula?
Oui.
C'est un cadeau un peu empoisonné, mais tu es plus près de moi actuellement du quotidien.
Non, mais on va trancher la question de Lula, parce que moi non plus, j'ai pas en tête les détails de ce qui s'est discuté. J'imagine très bien qu'il y a un enjeu sur la forêt, puisque le Brésil a un gros enjeu sur la déforestation, mais en même temps, le Brésil, dans la négociation, dit qu'il veut bien faire tout seul. Il demande pas forcément beaucoup de financement, beaucoup d'aide là-dessus. Mais bon, il y a forcément aussi d'autres choses dans les autres secteurs, le secteur énergétique. Donc, je sais pas quelle a été la nature de discussion entre Sarkozy et le Brésil, mais j'imagine très bien qu'ils ont trouvé beaucoup de points d'entente sur soit la déforestation, soit aussi sur le secteur de l'énergie. Est-ce que ça influencera considérablement Copenhague? Le Brésil est un poids à lui seul dans la discussion. C'est un des grands émergents. Il commence à annoncer des objectifs. Il maîtrise sa forêt et sait que ça va peser dans la balance finale. Donc, enfin, pour moi, c'est pas un bilatéralisme France-Brésil qui va radicalement changer les choses. Le Brésil a déjà lui-même beaucoup de cartes en main.
Alors, donc, et nous, la France, comment faire passer le message chez nous? Et puis...
D'accord. Vas-y. Et puis les attitudes, là.
Voilà.
Et bien, monsieur, s'il y avait des... Bon. Voilà. Alors, je vais partir d'un niveau... Bon, le bâtiment, c'est un très beau cas. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est dangereux de dire que tout ça se fera en claquant des doigts et que c'est pas cher. Je ne sais pas si vos chiffres sont vrais, chacun dit que c'est plus cher, etc. Bon, je pense personnellement que aller très vite vers le facteur 4 en France, nous, dans nos modèles, franchement, ça coûte quelque chose. Hein. Ça, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être fait? Et c'est là que l'affaire de la taxe carbone est très importante. C'est qu'on doit financer ça. Quelque part, il y aura du financement. Hein. Quelque part, les prix de l'énergie vont augmenter. La question, c'est comment on peut compenser les gens? Eh bien, il faut regarder qu'est-ce qui pose le plus de problèmes à la société française aujourd'hui, dans une compte tenu de concurrence internationale exacerbée. Et c'est là que nos simulations, je n'ai pas le temps de vous montrer comment ça se passe, mais c'est comme ça, c'est que si en même temps vous avez ce que vous dites, revu, corrigé, amendé, ce qu'on voudra, et qu'en même temps votre réforme fiscale fait que vous baissez beaucoup les charges sociales, vous avez un effet emploi important, un effet création d'emplois. Si en plus vous en réservez une partie, bien sûr, pour aider les gens les plus défavorisés, vous vous en tirez pas mal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le problème du bâtiment en soi, indépendamment des politiques macroéconomiques qui l'accompagne. Et derrière la macroéconomie, il y a la façon dont la fiscalité fonctionne, dont vous placez chacun d'entre nous sur en face d'un jeu de décision avec les prix du mètre carré, le prix des logements, etc. Donc c'est un problème central. Une chose quand même, parce que tu es un petit peu long là-dessus, vous savez quel est, je crois, un des obstacles qui fait que le facteur 4 est difficile, c'est que simplement on n'a pas assez de gens compétents dans le bâtiment. À force d'avoir fait un système scolaire où les métiers manuels sont disqualifiés, on n'a simplement pas assez de compétences. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien. Alors, donc ça, il faut faire quelque chose, mais ça veut dire quoi? Non, alors, maintenant, je passe sur l'attitude. J'avais avant une boutade, maintenant j'en ai deux. Si on veut que les Français comprennent quelque chose, cette affaire, et arrivent à prendre des décisions et comprendre et débattre, il faut faire une chose, ça je disais toujours, changer le journal du 20h. Alors maintenant j'en rajoute une deuxième, changer le marketing et la création de désir absolument pour des raisons de niveau d'obsolescence des produits que l'on veut vendre. Et ça m'amène à un problème, puisque je suis dans cette maison. Je pense que les chrétiens et ce qu'on a ici, on a un rôle. Moi, je ne prouve pas, moi, que le changement climatique, c'est hyper dangereux. C'est une question. C'est un peu comme Pascal, quoi. Dieu existe ou pas, comment je fais? Deuxièmement, la question, how much is enough? Combien c'est assez? C'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est vraiment absolument de prendre le dernier gadget que l'on produit, de le jeter très vite? La société de l'éphémère, c'est vraiment ce qu'on a besoin? Donc, je m'arrête là. Écoutez, sans trahir de secret, je suis une famille assez modeste et mon épouse aussi. Eh bien, je crois que c'est les gens les plus riches, ma femme et moi, qui sont les plus réticents à tomber dans cette société de l'éphémère, parce que simplement, on a distance, spiritualité, j'en sais rien. Et la question, simplement, c'est que nous avons, nous, la responsabilité de dire aux gens de notre pays qu'il y a plusieurs façons d'être riche, et pas forcément de se laisser piéger, non pas par la marchandise, mais par les objets. Et c'est une question un peu spirituelle. Et je crois qu'on a un rôle. Et je crois que l'Église en particulier, il faudrait mieux qu'elle s'occupe de ça que de ce qui se passe dans nos petites culottes. C'est une réaction personnelle. Je me permets de dire ça brutalement là.
J'ai du mal à reprendre immédiatement.
Mais je ne l'ai pas dit. Voilà.
Bon, merci.
Je me permets là. J'ai répondu sur qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut changer de spirit. Je pense qu'on a un rôle là-dessus, c'est tout. J'ai pas...
Merci. Sophie, vous voulez peut-être ajouter quelque chose un peu plus haut de le propos.
J'aurais pas dû dire ça.
Non, si, ça va, mais bon, ça.
J'y arrive là.
Non, mais ça reprendra un peu ce qu'avait dit aussi Jean-Charles avant sur l'histoire, on nous ment sur le prix. Il y a aussi l'idée de comment, finalement, l'économie reflète aussi le coût des externalités, c'est-à-dire des impacts environnementaux sur tous nos choix de consommation et de production. Après, il y a aussi la volonté personnelle de changer sa consommation. Je pense qu'il y a déjà une grosse marge de manœuvre sur produire la même qualité de consommation plus efficacement, mais qui joue en interaction entre la production et le choix de consommation. C'est pas juste renvoyer sur le pouvoir public, il nous faut des normes, des standards et obligez-nous. C'est incrémental. Il faut des normes, des standards, obligez-nous, et il faut aussi la demande du consommateur. Et là, moi, je rejoins largement Jean-Charles. Je pense que le pouvoir des médias est radical, enfin, fausse aussi la perception qu'on a des choses, parce qu'on ne véhicule pas les bons messages, on ne les véhicule pas correctement, et tout ça serait déjà à remettre à plat, au-delà même du discours purement éthique qu'on peut tenir sur cette question.
Alors, il me semble qu'il y avait une question.
Sur CO2.
Non, décidément, j'aurais dû inviter Hervé, mais bon.
Est-ce que le gaz carbonique est le seul responsable?
Réponse, non. Clairement. Et là encore, comment ça fonctionne? Bien évidemment, les modélisateurs du climat savent qu'il y a la rotation de la Terre du Soleil, qu'il y a les taches solaires, etc. Bien évidemment. La question, simplement, c'est que... la rapidité de montée des températures liée à la rapidité du degré d'injection dans l'atmosphère de gaz à effet de serre fait que la pente du réchauffement, elle, est sans précédent. D'accord ? Donc, personne ne dit qu'il n'y a que ça. Par contre, la pente, oui, ça, c'est exceptionnel. Dans un, on n'aura jamais vu historiquement une telle injection en si peu de temps. Et ça, c'est un problème très très important. Voilà. Donc ça, c'est un point. Hervé Le Treut, vous aurez la réponse à ce genre de questions. Hein, c'est pas. Je vais même pour me rattraper sur ma chute finale qui. Oui. Quand même, voilà, je vais me rattraper. Mais non, c'est très sérieux derrière cette façon un petit peu humoristique. J'essaie de. Alors, c'est la chose suivante, c'est que. Au 19e siècle, vous savez, il y avait Monsieur Homais, vous savez, le truc de Madame Doré. C'était l'esprit fort, hein, croyez, la science va tout résoudre. Aujourd'hui, les scientifiques sérieux disent, attendez, on a des diagnostics, on n'est pas sûr de résoudre. Ça nous renvoie à l'interrogation de ce qu'on veut pour la société, à la façon dont on veut vivre, dont on veut que les hommes vivent ensemble. C'est quelque chose qui a à voir avec la spiritualité. Voilà, donc je pense que nous avons vraiment un rôle, et que si on le fait pas, peut-être que d'autres on ne trouvera pas de remplaçant pour le faire. Donc je crois que derrière ça, et même quand on va discuter ensuite avec les Chinois et les Indiens, ça je vous promets, qu'au cours de négociations, quand on va parler d'équité, quand on va parler de responsabilité, on a intérêt à vachement savoir ce qu'on met derrière les mots, parce que derrière, il y a l'enjeu de comment on vit ensemble. Voilà. Donc c'est pas seulement...
Ça c'était une très bonne chute.
Mon père, non mais c'est bon, j'ai oublié que j'étais.
Il est 9h moins le quart, on va en rester là. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette soirée très intéressante. Ça nous ouvre une fois de plus des horizons importants et je crois qu'on aura l'occasion de reprendre cette question si fondamentale de notre rapport à notre mode de vie et la consommation. C'est évident que nous ne pouvons pas passer à côté. Merci donc de cette alliance de la conviction et de la compétence.